Une petite question, en cas de mort cérébrale, qu'est-ce que la Bible nous dit sur les dons d'organes?
Le don de soi est tout à fait dans la pensée chrétienne et même dans l'épître de Jean, je crois qu'il est dit que nous devons, au chapitre 3 et au verset 16, nous devons laisser nos vies pour les frères. Si on peut laisser sa vie pour les frères, on peut sans problème laisser ses organes. Et Paul dit, évoque le don d'organes en disant, mais vous nous aimiez tellement que vous nous auriez même donné vos propres yeux. C'est Galates, ah oui, Galates 4. Galates 4, 15. Je rends témoignage que si cela eût été possible, arrachant vos propres yeux, vous me les eussiez donnés. J'en rends témoignage. Si vous l'aviez pu. Si vous aviez pu, vous auriez fait cela. Donc, en particulier, pour le don de cornée, c'est évident qu'on peut y aller. Mais le reste paraît tout à fait dans la donner, ce qu'on donne. Dieu est un Dieu qui donne, il demande à ses enfants de donner. D'autant que ça ne posera aucun obstacle le jour de la résurrection.
Jéhovah qui refuse de recevoir du sang d'un donneur, ou peut-être aussi on peut parler de l'incinération. Il ne faut pas sous-estimer la puissance divine pour reconstituer ses enfants.
L'incinération est un problème complexe. Dans l'Ancien Testament, on voit toujours, sauf peut-être pour le cas de Joseph, qui est un cas particulier, et encore, où on a l'enterrement. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il est dit souvent qu'on rejoint les pères, ou qu'il est enterré avec ses pères, comme si, au-delà de la mort, les liens de famille se continuaient. Une expression qui est quand même curieuse. Et cette pratique est une pratique unique chez le peuple de Dieu par rapport aux nations qui l'entouraient, qui pratiquaient soit l'incinération le plus fréquemment, soit à l'inverse l'embaumement. Et on a là deux techniques qui, l'une cherche à détruire le corps le plus possible, l'incinération, et l'autre qui est à l'opposé, qui cherche à le conserver au-delà de toute corruption. Et il est très frappant que dans la pensée biblique, il y ait le choix ni de l'une ni de l'autre.
Il y aurait encore deux questions. Une question sur les embryons, les fausses couches, qui peuvent être très précoces, bien sûr. Et donc, tous ces embryons, ils seront au ciel. Ils sont tous sauvés, je pense, s'il y a la vie. Et la deuxième question, donc je la pose puisque j'ai le micro, mais ça n'empêche pas de répondre à l'autre. C'est la peine de mort qui est encore dans certains pays. Les autorités ont-elles le droit d'accepter la peine de mort et de donner la peine de mort?
Je ne peux pas répondre sur la première question, mais j'essaierai de répondre un peu à la deuxième. Si on regarde l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui m'a longtemps troublé, mais c'est peut-être pas fini. Il est plein de violence. Et on voit Israël qui n'hésite pas à tuer, à détruire ses ennemis, sur le commandement de Dieu, qui plus est. Alors qu'il y a effectivement la loi « tu ne tueras point ». Et il y a donc cette espèce de contradiction, d'opposition entre la loi et puis ce que Dieu demande parfois à son peuple. Des fois, le peuple va bien au-delà de ce que Dieu lui demande, d'ailleurs, ou reste en deçà, mais ça, c'est un autre problème. Et je crois qu'il y a là quelque chose qu'il nous faut comprendre, c'est que Dieu demande à son peuple d'exercer un jugement qui peut aller jusqu'à la mort contre des gens, des ennemis, qui ont bafoué les droits de Dieu, ou qui, pour d'autres raisons, s'en sont pris au peuple d'une manière ou d'une autre. C'est la souveraineté de Dieu, et nous n'avons pas à la critiquer. Et Dieu a donné aux magistrats ce pouvoir de faire appliquer les lois, qui peut aller jusqu'à la peine de mort. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un courant qui va dans le sens opposé à la peine de mort, pour des raisons qui sont tout à fait justifiées souvent, c'est qu'il arrive souvent qu'on se trompe et qu'on condamne des innocents ou qu'on exécute des innocents. Évidemment, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Mais le premier meurtre est arrivé tout de suite. Et je crois qu'il faut accepter notre finitude d'être humain pécheur. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout justifier, qu'on peut tuer n'importe qui. Mais je veux dire par là que la violence existe dans le monde nous n'arriverons pas à la contenir. La Bible dit même le contraire, que ça ira de pire en pire. En militant dans des associations contre ceci ou contre cela, ou pour ceci ou pour cela. Nous devons, je crois, penser que Dieu a donné aux autorités un pouvoir, à elles de l'exercer dans la pensée de Dieu. Ce qui n'est pas toujours le cas, évidemment.
Le verset qu'a cité Jean-Louis tout à l'heure, plutôt la suite du verset en Genèse 9, est assez clair. Genèse 9, verset 6, la fin du verset. « Qui aura versé le sang de l'homme par l'homme, son sang sera versé. » Je ne sais pas si on peut bien discuter sur ce verset. Cela n'enlève rien à la grâce de Dieu et puis tout ce que cela nous apporte, mais voilà.
Et donc, est-ce qu'on peut dire que ce que le Seigneur a dit à Pierre lorsqu'il a sorti son épée, et il a dit « Remets ton épée en son lieu, car tous ceux qui auront pris l'épée périront par l'épée. » Donc ça, est-ce que c'est donc ça va dans le même sens, c'est par un jugement ou alors c'est par un accident, je veux dire par la guerre, qui venge
Une apologie du terrorisme que je vais faire, mais la violence appelle la violence. C'est ce que veut dire ce verset. Et je crois que dans tout ce que nous venons de parler, pour le respect de la vie, il y a peut-être quelque chose qu'il nous faut valoriser, c'est la faiblesse humaine. Le chrétien est celui qui sait que l'homme est faible. Jean-Louis l'a dit dans son exposé, je crois qu'il y a trois raisons pour lesquelles on ne peut pas attenter à la vie, que ce soit au début ou à la fin. C'est que nous sommes des créatures, il faut accepter notre finitude. Sinon, on veut faire comme des dieux, c'est-à-dire prolonger sa vie ou décider de la vie quand on veut. C'est la séduction de Satan. Et la seconde raison, c'est que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nos corps ne sont pas des corps tombeaux, ce sont des corps temples. Et la troisième raison, c'est que vous n'êtes pas vous-même. C'est-à-dire, vous avez une dignité rédemptionnelle qui ne vous appartient pas. Et ce que je voudrais dire, c'est que aujourd'hui, la notion de dignité chez les non-chrétiens est invoquée pour demander la mort ou autre, mais il faut bien se rendre compte que c'est une dignité de convenance personnelle. C'est une dignité qu'on décide à géométrie variable. Et qu'aujourd'hui, on se dit, si je suis pas assez bien, je demande à mourir, qu'on m'aide à mourir. On peut changer d'avis. Chacun fait un peu selon son bon vouloir. Et il y a des associations pour mourir dans la dignité. Mais de quelle dignité s'agit-il ? D'une dignité, je répète, de convenance. Ça n'a rien à voir avec la dignité telle que l'a définie la parole de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que cette dignité selon la Bible, eh bien, on la trouve aussi bien dans le respect de la vie, au début de la vie, qu'en fin de vie. Je veux dire par là que quelqu'un qui, comme on dit familièrement, est un légume, c'est une expression que j'aime pas bien, garde toujours cette dignité, reste une personne humaine. Et elle a droit à nos égards au même titre que si elle avait toute sa raison, toutes ses facilités de communication, tous les échanges qu'on peut avoir. Ce n'est pas parce que la maladie est là et l'a rendue dans un état qui est un état végétatif qu'elle ne reste pas une personne humaine. Et si on attente à la vie au début, on est tenté de la tenter de la même façon à la fin dans des cas semblables que je viens d'évoquer.
En Romains 13, le magistrat porte l'épée de la part de Dieu. Et à ce moment-là, il n'est plus... Est-ce que c'est vraiment lui qui recevra, dirons-nous, la conséquence de cet acte ? Que fait le magistrat ? Il est serviteur de Dieu pour ton bien. Il nous est dit qu'il ne porte pas l'épée en vain, car il est serviteur de Dieu, vengeur pour exécuter la colère sur celui qui fait le mal. Donc il peut être amené à avoir un comportement, effectivement, pourquoi pas, de peine de mort. Porter l'épée, c'est la guerre qu'a tué. Hein. Par ailleurs, pour la question sur les fausses couches, sur les fœtus, effectivement, il y a 1 Corinthiens 15, nous fait voir toute la différence entre ce qui est mis en terre et ce qui en ressort. Ce qui est mis en terre, c'est corruptible. Quand on met un corps en terre, pourri, il ne devient rien du tout, il ne reste plus rien au bout de quelques années. Alors, et à partir de cela, Dieu va faire en sorte qu'il en sorte quelque chose de merveilleux, un corps spirituel. Donc, la pensée que les fœtus seront ressuscités sous une forme d'un corps spirituel n'est pas contraire à ce que nous dit l'Écriture. Pour être à la gloire de Dieu, pour être à la louange de Dieu. Dans l'absolu, il n'y a pas de différence entre ces deux choses corruptibles qui sont mises en terre. Deux choses qui ont de toute façon le même patrimoine génétique. Le patrimoine génétique existe dans le fœtus comme il existe dans un adulte complet. Et à partir de cela, Dieu donnera quelque chose de merveilleux. Quand on pense à la différence qu'il y a entre un grain de blé et un épi, c'est ça en fait la grosse différence. On met un grain de blé en terre, il en sort un épi. Quelque chose de bien plus... de différent, de tout complètement différent.
Je lirai un verset de Job. En Job 3, il s'est posé énormément de questions et il a dit cette pensée sur lui. Pourquoi il était là, pourquoi il n'était pas mort, pourquoi? Et il pose aussi cette question. Où, comme un avorton caché, je n'aurais pas été? Comme les petits-enfants qui n'ont jamais vu la lumière. Donc il semblerait que Job dise bien qu'un avorton est un petit-enfant. Est un petit-enfant qui n'a pas vu la lumière, en fait.
Ce qui est intéressant, c'est que dans Luc, quand il est question de la rencontre entre Marie et Élisabeth, et il est question du petit-enfant qui est dans le ventre. Et le terme grec est exactement le même avant la naissance qu'après. Cela souligne la continuité qu'il y a entre... En fait, depuis la conception jusqu'à l'arrivée au monde du petit enfant.
Est-ce que l'euthanasie, ça relève pas un autre problème, celui du maintien de la vie par la respiration artificielle, le coma? Ça a été le cas de Vincent Humbert qui a été beaucoup médiatisé, en fait. Et est-ce que ce principe rentre aussi dans le respect de la vie?
Alors effectivement, les moyens techniques de réanimation aboutissent à des situations où on ne sait plus comment s'en sortir. Si j'ai bien compris, ce jeune homme là, qui a été euthanasié, effectivement, avec... un peu sous la pression de sa mère, ne bougeait que les yeux, je crois. Donc, était dans cet état depuis deux ans, je ne sais plus. Était maintenu, effectivement, en vie par des moyens mécaniques. C'est difficile de juger de telles choses. Le quotidien est heureusement plus simple, mais c'est vrai que devant des... En fait, c'est peut-être dû au fait qu'on en fait trop et qu'on débouche sur un espèce d'acharnement thérapeutique pour maintenir en vie coûte que coûte, avec un prix à payer qui est beaucoup trop élevé. Effectivement, on aurait eu quand même probablement des scrupules à aller jusqu'au bout. C'est tout le problème de... Dans les services de réanimation, débrancher la machine, comme ils disent, c'est quand même quelque chose qui est courant. Des états de mort cérébrale qui, effectivement, ne survivent que par la machine. L'équipe médicale est là, avec les infirmières et tout ce... Et puis, voilà, vu son état, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on débranche. C'est sûr que ça fait partie des décisions qu'il faut assumer, qui ne sont pas faciles à faire.
Est-ce qu'il n'y a pas quand même une différence morale, en tout cas, entre faire mourir, donc injecter un produit, et laisser mourir, c'est-à-dire débrancher la machine, parce qu'au fond, il n'y a plus d'espoir. Et il me semble que laisser mourir, ce n'est pas quelque chose de condamnable. Sinon, alors... On va tous vers l'acharnement thérapeutique, d'une manière ou d'une autre. Il n'a pas cherché à ce que son pied ne heurte pas un caillou, il n'a pas cherché la gloire de ce monde. Il avait tous les droits, pourtant. Mais il a accepté sa finitude d'homme. Il a accepté de dormir, il a accepté de souffrir, il a accepté d'avoir soif. Simplement dans sa chair d'homme, sans parler, je dirais, de l'acceptation des souffrances expiatoires, qui est un autre sujet. Mais il a accepté pleinement son humanité. Est-ce que ce n'est pas pour nous aussi un encouragement à accepter la nôtre ?